Vous écoutez
RMC.
Vous écoutez RMC, vous regardez RMC Story, il est 8h. Belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Il refuse de se taire et le militant anti-drogue Amine Kessassi est l'invité d'RMC ce matin, lui qui appelle à la révolte contre le trafic de drogue une semaine après la mort de son frère à Marseille. Une question ce matin, est-ce la fin très bientôt de la guerre en Ukraine? Vous verrez que les États-Unis présentent un plan carrément de capitulation à l'Ukraine. Et on a les résultats ce matin des évaluations de rentrée scolaire menées depuis la rentrée de septembre dans les écoles. Résultats qui ne sont pas brillants.
Les ministres Gérald Darmanin et Laurent Nunez se rendent à Marseille ce matin.
Une semaine après la mort du frère du militant anti-drogue Amine Kessassi dans ce que le gouvernement appelle un crime d'intimidation et en attendant une marche blanche contre le trafic de drogue qui aura lieu samedi à Marseille. Les ministres, donc Laurent Nunez, Gérald Darmanin, qui rencontreront aujourd'hui la famille Kessassi en déplacement à Marseille où vous êtes pour RMC, Anna Jonjard.
Il y a comme un sentiment de déjà-vu derrière cette visite ministérielle pour Clara, une Marseillaise qui ne s'attend à aucun changement.
Juste des paroles, une forme de publicité politique dont on n'attend, nous en tout cas, rien et absolument plus rien.
À côté d'elle, Viviane acquiesce, elle en veut aux élus et à l'exécutif.
On l'a beaucoup trop attendu parce que ça fait des années que c'est latent et ils le savaient très bien.
Les annonces et les promesses, Fadela Widef de l'association Arc-en-Ciel y a pourtant cru.
J'avais interpellé le président, j'avais eu une discussion avec M. Rotaillot à l'époque. Je vois pas ce que ça a changé.
Cette figure du monde associatif dans les quartiers nord constate qu'il y a quand même plus de policiers dans la rue, mais pour elle, la répression n'est pas l'unique solution.
Effectivement, il y a plus de saisies, effectivement, il y a plus d'arrestations, et c'est très bien. Mais est-ce qu'il y a plus de soutien aux associations qui aident les jeunes qui sont déscolarisés? Est-ce que les logements sociaux sont dignes? Non. Donc c'est cette misère-là qui amène des jeunes, aussi jeunes, à entrer dans la délinquance.
Le ministre de l'Intérieur, lui, se félicitait avant-hier de la réduction du nombre de points de deal à Marseille, passé, selon ses chiffres, de 160 en 2021 à un peu plus de 80 aujourd'hui.
Et alors, aucun territoire n'est épargné par le trafic de drogue. Cette nuit, c'est en Martinique, au Lamentin précisément, qu'un homme est mort dans une fusillade. Touché par balle, il était dans sa voiture, sous les yeux d'un enfant de seulement 5 ans. Enfant qui a été touché, qui est d'ailleurs entre la vie et la mort au moment où on se parle. C'est le 29e mort par balle en Martinique depuis le début de l'année, où les autorités n'arrêtent pas d'alerter un Romain Houx sur les conséquences du trafic de drogue dans les Antilles.
Oui, c'est bien simple. Le podium des trois départements français les plus touchés par les homicides l'année dernière était la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. Dans ces territoires, la moyenne est de 7 homicides pour 100 000 habitants contre à peine 1 en métropole. Depuis des mois, les autorités alertent sur la circulation toujours plus massive d'armes à feu sur fond de narcotrafic. En août dernier, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bruno Retailleau, avait parlé d'un tsunami blanc pour évoquer le trafic de cocaïne. Il avait annoncé le renforcement de l'office anti-stupéfiant avec un tiers des effectifs déployés en Martinique, car les Antilles françaises sont devenues ces dernières années un point de transit privilégié par les trafiquants de drogue entre l'Amérique du Sud, les États-Unis et l'Europe. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard que les États-Unis ont dépêché le week-end dernier un porte-avions militaire en mer des Caraïbes.
Emmanuel Macron s'en prend d'ailleurs à nouveau aux consommateurs, de plus en plus nombreux en France, en fustigeant, je cite, des bourgeois de centre-ville qui financent parfois le narcotrafic.
Et tout à l'heure, ne manquez pas dans 20 minutes maintenant, le témoignage d'Amine Kessassi, sans filtre, en direct, face à moi, ce sera sur RMC BFM TV.
C'est l'autre rendez-vous politique du jour. Cet après-midi, le Premier ministre Sébastien Lecornu qui va prononcer le discours de clôture du 107e congrès des maires en ce moment à Paris. Les maires en colère, notamment sur l'état de leurs finances. C'est d'ailleurs lors de ce congrès des maires que le chef d'état-major des armées a alerté sur un risque de guerre contre la Russie dans les 3 ou 4 ans qui viennent. Il dit carrément que la France doit être prête à perdre ses enfants. Les Insoumis et le RN condamnent ces propos du chef d'état-major des armées, prononcés au moment où l'Ukraine dit avoir reçu de la part des États-Unis, écoutez bien, un plan pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Mais alors Antoine Hollard, vous êtes aux États-Unis pour RMC. En fait, c'est un plan qui reprend les conditions russes.
Oui, ce plan américain ressemble en fait à une demande de capitulation de l'Ukraine. Kiev devrait notamment, selon ce texte, céder l'ensemble du Donbass à la Russie, diviser par deux la taille de son armée ou encore renoncer à ses missiles longue portée, c'est-à-dire ses armes les plus efficaces contre la Russie. Exit aussi l'idée d'une force internationale déployée pour garantir la paix. Alors en l'état, on voit mal comment Zelensky pourrait accepter ces conditions, mais l'administration Trump est convaincue que les Ukrainiens sont en difficulté sur le champ de bataille et que dans ces conditions, ils ont tout intérêt à conclure ce deal. Zelensky se retrouve à nouveau sous pression, surtout que Trump veut aller vite. Il pense être en mesure de forcer un accord ou un pré-accord dès la semaine prochaine.
Plusieurs chiffres à vous donner ce matin. D'abord, sachez que toutes les deux minutes en France, une femme est victime d'un viol ou d'une tentative d'agression sexuelle. Et que chaque jour, trois femmes au moins sont victimes de féminicides ou de tentatives, chiffre en hausse selon les dernières données de la mission interministérielle pour la protection des femmes. Autre chiffre, cela sur le niveau des élèves en classe. On vient d'avoir là les résultats des évaluations nationales réalisées depuis la rentrée, depuis septembre, donc par 7 millions d'élèves en maths, en français, du CP jusqu'au CAP. Les résultats montrent que le niveau stagne et qu'on reste des cancres au niveau européen, Louise Salé.
Oui, car le niveau des petits Français est médiocre, bien en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE en français et en mathématiques. Cette année, pour l'évaluation du nombre de mots qu'un élève est capable de lire en une minute, en cinquième, 20% des enfants n'atteignent même pas ce que l'on attend d'eux en CM1. Mais il y a quelques points positifs. En CP, les écarts se réduisent entre les élèves d'éducation prioritaire et les autres. En mathématiques, il y a une légère amélioration depuis 5 ans dans toutes les classes de primaire. En revanche, les différences de niveau entre filles et garçons dans cette matière sont toujours aussi importantes. Les garçons deviennent meilleurs que les filles en mathématiques à la fin du CP et cet écart se creuse tout au long de la scolarité.
Et alors ça ne concerne pas que les enfants, mais vraiment toutes les générations. Nous sommes plus que jamais accros aux écrans. Écoutez bien chiffre, 9 Français sur 10 avouent qu'ils jonglent avec les écrans. Ils regardent la télé donc en étant en même temps sur le téléphone ou sur la tablette, parfois tout ça en même temps. Bref, on a du mal à se concentrer sur une seule chose. Vous confirmez, Solène Leroux?
Vous êtes sur votre canapé, bien au chaud, devant un bon film, et là, machinalement, vous prenez votre téléphone, ça vous parle, vous n'êtes pas seule.
Je regarde mes mails, je fais autre chose, je joue.
En même temps, de manger, de regarder mon téléphone et de jouer parfois avec les jeux vidéo, je regarde une série.
Comme Louis, 32% des Français regardent même 3 écrans en même temps, télé, ordinateur, tablette, mais pourquoi ?
Parce qu'on est habitué à tout le temps être sur les réseaux, à regarder tout ce qui se passe, les actualités, etc.
On va avoir besoin de faire quelque chose d'autre côté, et je pense que la nouvelle génération, elle est vachement accrochée. Elle a besoin d'être stimulée tout le temps et aussi parce qu'on a des gros problèmes de concentration.
Des difficultés qui concernent aussi les plus vieux. Avec un écran, déjà, la tension baisse. Alors si vous en ajoutez un, voire deux, il devient très difficile de rester concentré. Ça agace Jules.
Quand la personne regarde autre chose à côté, je suis en mode, tu vas louper la moitié de ce que tu regardes. Du coup, je remets 15 secondes en arrière et je le force à revoir la scène.
Ça lui arrive aussi, bien sûr, mais il a trouvé une solution. Aller au cinéma, pas de sursollicitation. Alors moins coûteux et plus simple. En théorie, en tout cas, vous pouvez tenter la prochaine fois de couper votre téléphone quand vous regardez un film.
Oui, ou de prendre l'air aussi, ça vaut le coup ce matin. Il neige ce matin dans de nombreuses régions et même en plaine cette saison. Vous allez me dire, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Orne, les Vosges, le Doubs aussi, ils peuvent faire toute la liste des départements, mais ça provoque parfois des soucis sur la route, soyez donc prudents. Les saleuses sortent des garages ce matin.
C'était le journal. J'étais émue par ces petites images, par ce côté intemporel, absolument année après année, l'arrivée de la neige. Mmh. Ça fait toujours rêver.
Comme le Beaujolais nouveau.
Exactement. Et puis il se trouve que ça tombe bien, c'est le même jour. Il est 8h08 sur RMC et RMC Story. Dans un instant, on parle économie et voiture avec vous, Manu.
Oui, RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Le marché des véhicules d'occasion électrique est en train de décoller.
Absolument. Jusqu'à maintenant, l'offre restait limitée. Aujourd'hui, plus de 80% des véhicules vendus sur le marché de l'occasion ont encore des moteurs thermiques. Et il n'y a que 4% des véhicules qui ont des moteurs électriques. Sauf que l'offre, elle est en train de s'étoffer. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui une voiture neuve sur 4 vendue en France qui est une voiture électrique. Et donc, au bout d'un an, on retrouve déjà ces modèles sur le marché de l'occasion avec en plus une nouvelle génération de batteries qui offre plus d'autonomie et de fiabilité. Donc, il y avait l'offre, maintenant, elle commence à être un peu plus abondante. Et puis, il y avait les prix, bien évidemment. Jusqu'à il y a peu, il y avait encore 5000 euros d'écart en moyenne entre un modèle thermique et un modèle électrique. Or, cet écart est en train de diminuer puisque le prix moyen des modèles électriques d'occasion se rapproche aujourd'hui du prix moyen des modèles thermiques.
C'est-à-dire
autour de 20 000 euros.
20 000 euros. Pour le moment, les Français, ils préfèrent quand même l'hybride non rechargeable.
Alors, c'est vrai, c'est le type de modèle que les Français plébiscitent parce que ça paraît être la bonne transition entre le thermique et le pur électrique. Sauf que c'est très cher, 8000 euros en moyenne plus cher d'occasion qu'un véhicule électrique. Et aujourd'hui, il y a clairement une demande qui émerge pour les petites voitures électriques d'occasion. D'ailleurs, les modèles les plus recherchés aujourd'hui, c'est la Renault Zoé, la Peugeot 208, la Tesla Model 3, qui a quand même perdu 20% en un an en termes de prix sur le marché de l'occasion. La Fiat 500 et la Dacia Spring, ce sont les petites annonces qui partent le plus vite aujourd'hui.
Merci Manu Le Chip de nous avoir accompagnés dans le choix de la voiture. Il est 8h09. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
5, je vous redonne l'invité du face-à-face ce matin, Amine Kessassi, le militant marseillais anti-drogue. Et puis juste après le face-à-face, on retrouvera la semaine face à Canteloup. Ce sera à 8h50. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
8h13 sur RMC et RMC Story. Arnaud de Manchette avec nous, salut.
Ça va bien, mais c'est pas trop froid, ça pique pas trop. Il fait froid ce matin, son gel. L'occasion de rappeler que la campagne de dons pour les Restos du Cœur est ouverte. Et à ce sujet, est-ce que vous avez vu passer ça? Le fondateur de EasyJet a offert aux Restos, c'est une vraie info, 730 000 boîtes de Macédoine.
Ah non.
À la fois c'est gentil, à la fois c'est pas gentil, enfin, c'est de la Macédoine, c'est pas sympa. On dirait une punition de Macron. T'es pauvre et t'as faim? Eh ben, tu mangeras de la Macédoine en conserve. T'avais qu'à monter une start-up dans l'IA générative. Voilà ce que t'aurais dû faire.
Bon, je me moque, mais en vrai, c'est gentil, il a voulu bien faire. Nous, on se rend pas compte. Lui, il dirige une compagnie aérienne, il prend pas EasyJet, lui, hein. Des pauvres, il en fréquente pas, il sait pas ce que c'est. Et il a voulu aider quand même. Il était au supermarché, il a vu une photo d'une famille épanouie sur une boîte de Bon Duel, il a fait, ah ben voilà! C'est sûrement ça, les croquettes pour les pauvres. Oh, allez hop, mettez-moi 730 000. Alors je rappelle que les dons sont déductibles des impôts à 60%. C'est-à-dire que le gars, il va avoir débarqué des camions du trésor public chez lui, avec le remboursement, 480 000 boîtes de petits pois carottes. Qu'est-ce qu'il va en faire ? Alors, tant qu'on parle du trésor public,
oui,
la taxe foncière devrait augmenter pour 7,5 millions de ménages. Et vous avez vu pourquoi ? C'est incroyable. C'est suite à un recalcul des éléments de confort.
Oui, j'ai vu.
Et dis donc, Jamy, c'est quoi un élément de confort? Eh ben, accrochez-vous à vos bretelles. Un élément de confort, c'est une douche, une baignoire, l'eau courante. Pascal, vous avez l'eau courante?
Je ne sais pas.
La bourgeoise, elle ne veut pas le dire.
Elle n'ose pas le dire.
Elle ne peut pas le dire. Donc, chaque élément de confort est compté comme des mètres carrés supplémentaires. Alors, on va faire un petit quiz. Mmh. Combien de mètres carrés supplémentaires l'État vous compte si vous avez cet élément de confort? Je vous donne un exemple. Une douche, ça vaut 4 mètres carrés de taxe foncière en plus.
D'accord.
Alors, attention, c'est parti. Un lavabo, ça vaut 3 mètres carrés de plus.
Deux.
Vrai ou faux?
Non,
c'est vrai.
Ah, c'est vrai. 3 mètres carrés.
Une baignoire vaut 5 mètres carrés de plus.
Ouais.
Oui.
Ouais.
Mais qui a une baignoire?
Posséder un lit avec deux oreillers peut vous valoir 6 mois de prison s'il n'est pas déclaré.
Non. Ça pourrait. C'est la prochaine taxe.
Si vous avez une brosse à dents, c'est compté comme 12 mètres carrés.
Ah ouais.
Il se brosse les dents. Vous croyez qu'il se brosse les dents, Mélenchon? Non. L'eau courante vaut 4 mètres carrés.
Oh, peut-être.
Oui, c'est vrai.
C'est fou.
Une télé, c'est 5 mètres carrés et si elle fonctionne, c'est 8 mètres carrés. Non, ça, c'est faux.
Et si vous avez... dit, ça, c'est déjà la redevance.
Oui. Si vous avez un plafond, vous êtes automatiquement assujetté à l'impôt sur la fortune.
Un plafond. Ah bah oui, oui, vous avez un plafond, c'est
ça. Non, mais en vrai, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont envoyer un inspecteur dans nos 45 mètres carrés? Le gars, il passe en disant, dis donc, on a l'électricité, ça, l'exploiteur du peuple. Hop, 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 c'est quoi ça? Non, le cache pas, je l'ai vu. Une chaise, allez boum, 15 mètres carrés en plus. Et au final, l'État te taxe comme si tu vivais dans 250 et on vit un peu la vie des riches. En fait, on a tous les inconvénients des riches sans en avoir les avantages. C'est cool. Quand tu reçois ta feuille d'impôt, tu peux enfin te dire, ah, c'est donc ça que ressent Bernard Arnault. Hey, pourquoi je suis imposé sur un jet ski? J'en ai même pas. Oui. Mais tu pourrais. C'est là la difficulté.
À Paris, le BHV n'a pas obtenu l'autorisation d'organiser ses animations de Noël sur son trottoir.
Oui, au BHV, ils accumulent les problèmes depuis le partenariat avec Chine. Tiens, j'ai vu authentique, le maire de Grenoble, Éric Piolle, s'oppose à l'ouverture d'un magasin Chine dans sa ville. Et ça tombe bien, puisque de son côté, Chine non plus ne veut pas être associée à la ville de Grenoble. Donc au final, ça se goupille gentiment. C'est dommage que les festivités parisiennes soient annulées. Je suis sûr que Frédéric Merlin, le patron du BHV, avait plein de bonnes idées. Salut les ploucs et joyeux Noël. Vous voulez faire plaisir à vos morveux autodiagnostiqués HPI qui s'appellent tous Ryan et Mathéo? Eh bien, réjouissez-vous les sans-dents. Au BHV, nos produits sont faits pour des enfants et par des enfants. Déco, téléphonie, vêtements, retrouvez tous les produits de Noël dans la semaine spéciale enfance où les enfants chinois ont mis tout leur cœur pour faire plaisir aux enfants français. Et nos illuminations 100% écolo sont produites dans nos sous-sols par des prisonniers politiques tibétains sur des vélos d'appartement reliés à un générateur. Et comme ils sont nourris qu'avec de la Macédoine, ils sont un peu dénutris. Du coup, ils pédalent pas tout le temps. Donc,
ça clignote. C'est aussi ça l'esprit de Noël, c'est merveilleux. À demain.
C'est magnifique, merci Arnaud Demange, qu'on retrouve tous les matins.
RMC vous offre.
Arrêtez tout.
120 000 euros.
Arrêtez tout parce que c'est l'alerte. Vous l'avez bien entendu, c'est énorme. 120 000 euros. On vous offre 120 000 euros sur RMC. Il y a 100 000 euros pour vous, net d'impôts. Et il y a 20 000 euros pour la personne de votre choix. Si quand on l'appelle, elle dit qu'elle écoute RMC. C'est ça la grande famille RMC. 120 000 euros. 120 000 euros. Vous envoyez tout de suite RMC au 7 32 16. Pour jouer, vous envoyez RMC au 7 32 16. Mais alors attention, il est 8h18. Vous avez 10 minutes. Pas une de plus, 10 minutes pour vous inscrire, c'est tout de suite 8h18 pour pouvoir tenter votre chance et gagner 120 000 euros. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 4 SMS maxi.
Et dans un instant, le face-à-face avec un témoignage exceptionnel, très fort. C'est Amine Kessassi. Il avait promis qu'il ne se tairait pas. Il a même presque une sorte d'urgence à parler. Vous entendrez son émotion sans filtre en direct. Amine Kessassi est mon invité sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h27, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Amine.
Bonjour.
Amine Kessassi, Mehdi Kessassi, Brahim Kessassi, votre famille est endeuillée, vous êtes endeuillée, la France est endeuillée. Il y a une semaine tout pile, votre petit frère Mehdi a été assassiné. Un choc pour vous et de votre famille, bien sûr, un choc désormais pour la France, un point de bascule. Voilà les mots que le ministre de l'Intérieur a utilisés, un crime de terreur. On va dire les choses parce qu'on se les dit souvent sur RMC, on s'est parlé tout le week-end. Je vous avais déjà souvent reçu sur RMC pour votre combat. Et on s'est parlé tout le week-end et dimanche matin, vous m'avez appelé en larmes, en miettes, bouleversée, ne savant même plus pour qui, pourquoi votre frère était mort. Avec même, au début, dans une sorte de réflexe, protecteur du grand frère, l'idée que peut-être c'était vous, que c'était à cause de vous. Ce matin, vous vous relevez, vous dites « je veux parler partout, je veux parler autant que je peux. » Mais au fond, je veux quand même commencer par vous demander « comment vous faites, vous, maintenant ?» Comment vous faites ?
Mon petit frère Mehdi, et j'arrêterai pas de le dire, il est mort pour rien. Il est coupable que d'une seule chose, c'est d'avoir été mon petit frère. Et moi, quand je vois mes mains, je vois le sang de mon frère. Parce que ces gens, ce qu'ils ont voulu faire, c'est me toucher à moi. Et comme ils ont pas pu, ils ont touché un jeune innocent. Un petit garçon de 20 ans, qui avait rien fait, rien demandé à personne, qui préparait le concours de gardien de la paix. Mon petit frère, mardi 11 novembre, quelques jours avant son décès, il avait emmené ma petite nièce, la fille de mon frère aîné qui lui-même est décédé. Il l'avait emmené à la ferme pédagogique et il m'a envoyé des photos. Il m'a dit, regarde, j'ai pris notre nièce et je lui ai pas répondu. Et je regrette. Je regrette de pas lui avoir répondu, de pas lui avoir dit bravo papa, c'est bien. Et ça, c'est terrible. Terrible parce qu'aujourd'hui, je verrai plus mon petit frère.
Votre mère ? Qu'est-ce qu'elle dit ?
Ma mère, elle est anéantie, elle a déjà enterré un enfant. Aujourd'hui, elle enterre un deuxième fils, un jeune de 20 ans, son dernier, son petit qui vivait encore avec elle. Ma mère, elle est brisée aujourd'hui, brisée.
Vous avez dormi depuis ?
Quand je ferme les yeux, c'est toutes ces images qui me reviennent. C'est je vois mon petit frère dans son cercueil à la morgue. Je revois l'enterrement, je revois toutes ces scènes. Et ça, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible.
Vous n'étiez pas à Marseille parce que précisément, on vous avait dit de partir.
On m'avait demandé de partir dès août. Et depuis août, j'arrête pas de dire, est-ce qu'il faut que je mette ma famille sous protection? Est-ce qu'il faut que je fasse venir ma famille avec moi? Est-ce qu'il faut qu'ils viennent? Aujourd'hui, on est sous protection, mais ça ramènera plus Mehdi.
Je voudrais savoir, est-ce qu'il se savait menacé? Est-ce qu'il disait qu'il était inquiet?
J'avais dit à mon petit frère, j'avais dit, mais dis papa, j'ai dit, comme on se ressemble un peu, comme on a un peu la même tête, fais attention papa. J'ai dit, comme il y a des gens qui me cherchent, imagine, ils te confondent avec moi, ils viennent te tuer, etc. Il m'a dit, non, t'inquiète, ami, il n'y va jamais m'arriver quoi que ce soit, on se ressemble pas, tu es plus costaud que moi, pas moi, etc. J'ai dit, oui, je suis plus gros que toi, papa, mais on a la même tête, quand même, on se ressemble. Et il était dans cette insouciance, il y croyait pas.
Il voulait lui-même, et j'aimerais que vous nous parliez de lui, de Mehdi, devenir gardien de la paix.
Tout à fait, mon petit frère, il voulait devenir policier depuis qu'on est petit, c'est ce qu'il veut faire sur Netflix, il regarde des séries policières, ce genre de choses. Et il était inscrit à la prochaine session, je crois que ça commence le mois prochain, pour devenir gardien de la paix. Et moi, pour moi, et si je peux faire passer ce message, c'est que mon frère, c'est un gardien de la paix. Et on doit le reconnaître comme gardien de la paix.
On a même eu cette discussion dimanche matin, où à un moment, vous m'avez dit, Mehdi, il est mort parce que c'est mon frère, il est mort pour rien. Moi, j'ai osé, parce qu'on était dans l'émotion tous les deux, parce qu'on pleurait dimanche matin au téléphone, vous dire, il est mort pour la France. Est-ce que vous entendez ça?
Ah, bien sûr. Bien sûr, derrière Mehdi, c'est toute la France qu'on a voulu tuer. Derrière Mehdi, on parle beaucoup de liberté d'expression, on condamne les pays qui ne garantissent pas la liberté d'expression. C'est la liberté d'expression qu'on a tuée. Derrière Mehdi, c'est des mères entières qu'on a tuées. Derrière Mehdi, c'est l'état de droit qu'on a voulu remettre en question. Derrière Mehdi, c'est la sécurité des Françaises et des Français qu'on a en quelque sorte tués.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous considérez que ce combat, ça doit être le combat de tous les Français?
Ah oui, sans aucune étiquette. Et moi, ce matin, je veux faire passer aucun message politique. Je suis juste venu parler de mon frère et lui rendre hommage. Mais à tout le monde, portez ce combat, portez cette voix. Si vous voulez garantir ma sécurité, si vous voulez garantir la sécurité de celles et ceux qui parlent, il faut se lever. Il faut que tout le monde parle. Si on est des milliers à prendre la parole, si on est des milliers à se lever, si on est des milliers de nouveaux visages qui luttent contre le narcotrafic, eh ben, ils pourront pas tuer tout un peuple, ils pourront pas tuer toute une nation.
Je le sens même dans votre besoin de parler, Mehdi, vous voulez parler partout, tout le temps. Si vous aviez parlé toute la nuit, vous auriez parlé toute la nuit. C'est-à-dire que comme si parler était désormais votre raison de vivre.
Mehdi, mon petit frère, quelques semaines avant qu'il décède, il a commandé le livre que j'avais publié il y a quelques semaines.
Marseille.
Essuie tes larmes.
Un livre tellement prémonitoire. Votre livre, il est paru il y a moins d'un mois maintenant. Marseille, essuie tes larmes. Et le sous-titre de votre livre, c'était Vivre et mourir en terre de narcotrafic. Qu'est-ce qu'il vous a dit à la lecture de votre livre?
Il avait commencé à lire et il n'a pas terminé. Et une amie de Mehdi, une amie de classe, m'a contacté en me disant, Amine, on a un exposé à faire. Et Mehdi voulait faire son exposé sur ton livre.
Est-ce qu'il avait lu jusqu'au moment où dans votre livre vous dites « Je crois qu'il m'en voulait » Vous parlez de Mehdi et vous dites « Je crois qu'il m'en voulait presque de remuer tout ça. » Mehdi m'avait même lancé un jour « Tu fais de la politique sur sa mort. » Il parlait de Brahim, votre premier frère tué, c'était en 2020. C'est l'origine de votre engagement, c'est votre conscience qui se réveille à ce moment-là, du nom de l'association que vous menez. Tu fais de la politique sur sa mort, ça m'avait beaucoup blessé, écrivez-vous. Est-ce que vous savez s'il a lu ce passage, que vous avez eu des discussions là-dessus?
Oui.
Alors?
Il comprenait pas pourquoi au début je faisais en sorte que la mort de Brahim devienne une mort politique. Il comprenait pas pourquoi je disais que c'était de la politique tout ça. Et en lui expliquant les choses, il s'est même engagé à mes côtés puisque je me suis engagé politiquement et j'ai été candidat à une élection et il est venu tenir un bureau de vote pour moi. Il est venu tracter pour moi. La photo qu'on diffuse de lui, c'était dans le local de campagne le soir des résultats des législatives et il disait mon frère a peut-être perdu cette élection, mais de son jeune âge, il a fait ce que personne n'a fait. Et la fierté que j'ai vue dans ses yeux ce soir-là, c'est une des seules choses qui m'a fait tenir ce soir de défaite au second tour des législatives.
Donc, il était là pour vous?
Oui.
Il était là pour vous. Et quand vous dites « j'ai tenu pour lui », vous avez, et il faut le dire, vous étiez cinq. Vous avez d'autres frères et sœurs. Comment on vit ça aujourd'hui? Comment eux se vivent?
Ben, toute la famille est dans l'incompréhension, toute la famille est dans le est anéantie en fait. On se comprend pas pourquoi lui, Pourquoi Mehdi? Pourquoi le plus petit? Pourquoi celui qui a jamais pris la parole? Pourquoi celui qui n'est pas sur les réseaux sociaux? Pourquoi celui qui a une vie toute tranquille d'adolescent? Il va à l'école, il étudie. Les marins de Corsica Linéa ont décidé de lui rendre un hommage et je les en remercie.
Mais justement, cette question, pourquoi? Quand le ministre de l'Intérieur dit c'est un point de bascule, c'est un crime d'avertissement. C'est pas un avertissement, parce qu'un avertissement, c'est quand on vous envoie une balle par la poste en vous disant attention.
Tout à fait.
Il est mort.
Le sang a coulé.
C'est donc pour faire taire tout le monde, vous dites sur ce micro, je ne me tairai pas. Qu'en est-il des autres? Est-ce que depuis, vous avez entendu la crainte d'autres militants? Est-ce que vous pouvez les comprendre? Qu'est-ce que vous leur dites ce matin?
Ah bah bien sûr, moi je comprends la crainte des militantes et militants. Bien sûr, je comprends la crainte de celles et ceux qui habitaient autour de ce rond-point, de celles et ceux qui ont des enfants qui vont à l'école, parce que c'est ça la réalité aujourd'hui. Mon petit frère, il sortait de l'école. Et c'est ça qui peut se produire pour des gens qui pourraient prendre la parole. Et ce que je leur dis, c'est que regardez-moi, je suis debout, je suis là. Et rien que pour ça, rien que pour Mehdi, rien que pour toutes ces victimes, rien que pour là où on en est arrivé, le point de bascule, ça fait des années qu'on dit qu'il arrive, ça fait des années qu'on dit que la situation a basculé. Et rien que pour ça, on doit tenir pour eux.
Vous avez envisagé de laisser tomber ?
Moi, je sais pas ce que je vais faire de la suite. Aujourd'hui, je sais pas. La seule chose que je sais, c'est que je vais tenir debout jusqu'à samedi. Et la suite, j'en sais rien.
Samedi, c'est cette marche blanche à laquelle vous invitez le plus grand nombre à participer. Vous dites, on ne peut pas tuer un peuple tout entier. Il y a la réponse politique et il y a la réponse des associations comme la vôtre. Est-ce que les deux sont compatibles? Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice seront sur place tout à l'heure. Le président de la République a dit qu'il irait à Marseille le mois prochain. Est-ce que vous en attendez encore quelque chose et qu'est-ce que vous leur demandez?
Encore une fois, moi, si je suis venu ce matin, c'est pour jeter la pierre sur personne. La seule chose que je peux dire, c'est arrêtons les discours et passons à l'action. Les discours, on en a entendu. Le constat, on sait où il est, on sait comment les choses sont faites. Maintenant, bien sûr que j'attends un tas de choses. Bien sûr que ce qu'on répète depuis des années, que l'action qui a été lancée avec Marseille en grand, elle doit aller plus loin, qu'il doit y avoir une véritable révolution sociale dans ces quartiers, qu'il doit y avoir une véritable révolution sociale partout en France. Cette révolution sociale, elle s'accompagne d'un tas de choses, des services publics, redonner les moyens à la police, le retour de la police de proximité, les enquêteurs aussi, parce qu'on parle beaucoup du retour de la police de proximité dans les quartiers, mais il est temps de donner les moyens aux enquêteurs d'aller au bout des enquêtes.
Et d'aller jusqu'au bout et jusqu'en haut de la pyramide. Vous parlez aussi de tous ces commanditaires qui sont à Dubaï et qui sont ceux qui peut-être ont commandité. On parle d'un des chefs de la DZ Mafia qui aurait depuis sa cellule commandité l'assassinat de votre frère. Vous crispez presque physiquement quand je dis ça. Parce que vous avez peur, parce que quoi?
Non, peur, je peux pas avoir peur. Je peux pas avoir peur après ce qu'ils ont fait à mon frère, à mon aîné.
Vous n'avez plus rien à perdre.
Non, j'ai plus rien à perdre et je l'ai dit, c'est une lutte à mort qui est engagée. C'est une lutte à mort aujourd'hui qui est engagée. Et c'est pour ça que aujourd'hui l'État, les ministres, doivent protéger ma famille dans un premier temps. Et c'est ce que je souhaite, protéger ma famille dans un premier temps.
Ils vous ont appelé en août et ils vous ont dit, Amine, il faut partir. Et vous avez immédiatement dit, mais on fait quoi pour ma famille? Je voudrais aussi qu'on parle des jeunes. Je voudrais que tous ceux qui nous écoutent ce matin écoutent aussi ce que vous avez à leur dire, Amine, sur ces jeunes qui parfois sont tentés, eux aussi, de rentrer dans ce trafic de drogue. Qu'est-ce que vous leur dites?
Le message, je l'ai toujours porté. On croit toujours que ça arrive aux autres. On croit toujours que ça touche que les autres. Ma famille a été touchée par deux fois. Par deux fois, j'ai enterré des frères. Et aujourd'hui, et je l'ai toujours dit et je l'ai jamais assez dit, la seule issue possible au narcotrafic, c'est la prison ou le cimetière. Et en l'occurrence, pour mon frère René Brahim, ça a été le cimetière. Et pour mon frère Mehdi, qui n'avait rien à voir avec la drogue, qui n'avait rien à voir avec le deal, qui n'a jamais mis un pied dans un commissariat, jamais mis un pied dans un palais de justice, qui n'a jamais été cité dans aucune enquête, qui n'a jamais été cité dans aucun dossier. Et mon frère est mort pour rien.
Il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour rien. Mais il est mort aussi avec vous, qui aujourd'hui portez ce message. Hier, à votre place, c'était le grand enquêteur sur la question du narcotrafic, Frédéric Ploquin. Et il disait que votre frère était le point de bascule, pas dans le sens où Laurent Nunez le dit, mais dans le sens d'un réveil des consciences, pour utiliser votre mot. Et on se dit qu'il aura fallu en arriver là, peut-être, pour que le pays entier se réveille. Est-ce que vous vous dites ça ?
Encore une fois, et je l'ai déjà dit, moi je lance la pierre sur personne, mais aujourd'hui, avec le décès de Mehdi, qui est mort encore une fois pour rien, qui est mort pour la simple raison que c'était mon petit frère, plus personne ne pourra dire « je ne savais pas », plus personne ne pourra dire « j'ignorais la situation », plus personne ne pourra dire « j'ignorais les conséquences du narcotrafic ».
Qui est l'ennemi ?
Aujourd'hui, l'ennemi, c'est ceux qui commanditent depuis des cellules, depuis Dubaï, depuis la Thaïlande, depuis l'étranger. C'est ceux qui appuient sur la gâchette. C'est toutes ces personnes, mes ennemis, aujourd'hui.
Quand vous dites les mères de famille, on veut les faire taire, les jeunes, on veut les faire taire, est-ce que vous craignez, en effet, que l'assassinat de votre frère soit... Ça n'est plus un avertissement pour vous, on vient de le dire, mais que ce soit un avertissement pour d'autres, je pense aux magistrats, je pense aux policiers. Comment eux peuvent vivre en ce moment ?
Tout le monde est menacé aujourd'hui. Toutes les personnes qui seraient amenées à prendre la parole sont menacées. C'est pour ça que la réponse, elle doit être plus que forte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la crédibilité de la France qui est en jeu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est l'état de droit même qui est en jeu. Aujourd'hui, un auteur, j'étais hier avec Roberto Saviano, aujourd'hui, des écrivains, des magistrats, des juges, des enquêteurs peuvent être menacés. C'est pour ça que la réponse, elle doit être à la hauteur. C'est pour ça que notre pays doit se doter de vraies capacités de protection. Et quand on protège les gens, il s'agit pas juste de leur dire bonjour, est-ce que vous pouvez partir. Il s'agit de prendre en compte s'ils ont les moyens de partir. Il s'agit de prendre en compte s'ils ont les moyens de se prendre un nouvel appartement. Il s'agit de prendre en compte s'ils ont les moyens de protéger leur famille ou pas, et de prendre en compte et en considération tous les éléments qui les entourent.
Et je reprécise pour ceux qui nous écoutent, Amine Kessassi, que vous n'avez que 22 ans et que vous viviez déjà depuis cet été sous protection, mais que, et j'en ai été témoin en rentrant dans ce studio, votre protection est ultra renforcée et prise extrêmement au sérieux. Une question maintenant sur la réponse sur le volet des consommateurs. On l'a vu, c'est une des réponses d'Emmanuel Macron depuis deux jours. Il parle des consommateurs complices. C'est parfois les bourgeois des centres-villes, dit-il, qui financent le narcotrafic. On ne peut pas d'un côté déplorer les morts et de l'autre consommer en rentrant du travail. Est-ce qu'il faut responsabiliser davantage les consommateurs? Qu'est-ce que vous dites à ceux qui consomment de la drogue, qui achètent de la drogue et qui nous écoutent ce matin?
À toutes ces personnes aujourd'hui, effectivement, plus personne, et ça je l'ai déjà dit, plus personne ne peut dire « je ne savais pas », plus personne ne peut dire « je ne savais pas ce qui se passait, j'ignorais la situation des quartiers populaires, j'ignorais ce que ça faisait lorsque j'achetais une barrette de shit, j'ignorais ce que ça faisait lorsque je consommais de la cocaïne ». Plus personne ne peut dire « je ne savais pas ». Après, j'ai toujours porté des solutions politiques là-dessus. J'ai toujours demandé un débat autour de la légalisation du cannabis. J'ai toujours prôné un tas d'autres solutions et un tas d'autres options que la répression. Mais voilà, aujourd'hui, moi, c'est Mehdi, ma priorité, c'est rendre hommage à mon petit frère, moi, qui me...
Je vois, et je le dis pour ceux qui nous écoutent à la radio, physiquement, régulièrement, depuis le début de cet entretien, vous vous relevez, vous avez besoin de reprendre votre souffle, mais aussi comme si vous aviez besoin de reprendre de la force, parce que c'est un combat. Comme si vous repuisiez au fond, dans les mots que vous avez écrits, ce combat-là. C'est comme ça ? C'est ça ?
Tout à fait, tout à fait. Je vais chercher le peu de force aujourd'hui que j'ai. Je trouve cette force dans ma maman, qui a tout donné pour ses enfants, qui a tout donné pour sa famille, qui s'est battue pour nous, et qu'on a encore une fois... briser le cœur, qu'on a encore une fois arraché un bout de son cœur, qu'on a encore une fois endeuillé. Et c'est chez elle, dans les mots que j'ai reçus de toutes ces personnes, dans l'engagement des gens que je vois venir vers moi, un tas de personnes se sont mobilisées, des gens sont venus m'accompagner, etc. Et à toutes ces personnes, je veux dire merci et leur dire levez-vous, levez-vous.
Mais levez-vous encore une fois. Il va y avoir le moment de la marche blanche samedi, et c'est un début pour vous justement d'une autre forme de combat, qui est un combat dans lequel vous voulez précisément ne pas vous sentir seul. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire, Amine ?
Aujourd'hui, clairement, ce qu'on peut faire, c'est parler, raconter autour de nous ce qui s'est passé, raconter les choses, continuer à alerter, continuer à interpeller, et puis les gens qui sont engagés aussi dans des partis, faire remonter aux directions de leur parti, leur dire qu'il s'agit plus d'une question de droite, de gauche, de centre. Aujourd'hui, il s'agit de la question de la nation. Aujourd'hui, il s'agit de l'avenir des quartiers, de l'avenir des zones rurales, parce qu'on pourrait croire que cette question ne touche que Marseille. On fait beaucoup l'amalgame en confondant ce qui se passe au Mexique. On parle souvent de mexicanisation, on parle souvent de ce qui se passe à Palerme, etc.
Vous en pensez quoi, vous, de ça ?
Mais pas besoin d'aller voir à l'étranger. Ouais. Regardons ce qui se passe chez nous. Les situations qu'on décrit ailleurs, elles sont présentes chez nous.
Déjà,
dans notre territoire. Je pense à Rennes, je pense à Nîmes, je pense à Marseille. Toutes ces cités qui sont ravagées par la drogue, toutes ces zones rurales qui sont ravagées par la drogue. Arrêtons d'aller voir ce qui se passe à l'étranger. Ces situations, on les voit ici, chez nous, aujourd'hui.
Vous allez vivre comment maintenant, Amine ? Après samedi, vous allez faire quoi ? Est-ce que vous croyez encore à la politique ?
Je peux que croire en la politique. C'est le seul levier qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est la politique. Il y a que ça qui peut aujourd'hui changer les choses. Il y a que ça qui peut aujourd'hui décider un nouveau cours pour nos vies. Il y a que ça qui peut aujourd'hui décider que le soleil se relèvera dans les quartiers, que le soleil se relèvera chez ses familles. Il y a que ça. Mais encore une fois, moi aujourd'hui, c'est rendre hommage à mon petit frère, me mobiliser pour lui, me mobiliser pour sa mémoire.
Vous y croyez ? Vous pensez qu'on peut le gagner, ce combat ?
J'ose espérer qu'on peut le gagner. J'ose espérer pour ma maman qu'on peut le gagner. J'ose espérer pour mon petit frère qui est décédé et qu'on a enterré mardi qu'on peut gagner ce combat.
Merci, Amine, pour votre sincérité ce matin. Prenez grand soin de vous, pas seulement grâce à tous ceux qui sont à l'entrée de ce studio que je vois là, parce que vous n'êtes désormais plus jamais sans cette protection, sans ces anges gardiens, mais aussi parce que vous pouvez peut-être entendre que la nation est derrière vous. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Amine Kessassi, pour votre témoignage. Et je recommande votre livre, plus que jamais. Et on aurait dû en parler beaucoup plus tôt. Merci en tout cas de l'avoir écrit aussi. Marseille, essuie tes larmes. C'était aux éditions Le Bruit du Monde. Et on peut le trouver, bien sûr. Et votre association, l'association Conscience. Merci, Amine Kessassi. Il est 8h47 sur RMC et BFM TV.
RMC, Apolline Matin.
8h50, face à Canteloup.
Pour sécher mes larmes, c'est vrai qu'il faut sortir sans transition de l'émotion au rire et heureusement que vous êtes là. C'est face à Canteloup justement, Nicolas Canteloup. Mon invité ce matin, c'était le militant Amine Kessassi pour parler de la lutte contre le narcotrafic. Emmanuel Macron est avec nous. Bonjour Monsieur le Président.
Oui, bonjour chère Apolline de Malherbe. Merci pour ce moment de vérité que vous nous avez offert et j'aimerais saluer la dignité d'Amine Kessassi. Je m'engage devant lui, nous allons lutter contre le narcotrafic avec la même détermination que contre le terrorisme ou contre les allocations chômage. Nous y mettrons un terme, je m'y engage.
Vous avez, monsieur le président, fustigé les consommateurs en visant les bourgeois des centres-villes qui alimentent le trafic.
Écoutez, chacun le sait, je n'aime pas les bourgeois. Peut-être, oui, certains m'ont appelé le Mozart de la finance, mais peu de gens savent qu'on m'appelle aussi le Manu Chao de l'égalité des chances.
Ah oui,
le Bernard Lavillier de l'action sociale, donc ça suffit, les bourgeois inconscients.
Très bien, bah heureusement que vous êtes là, vous voyez, ça y est, je n'ai plus envie de pleurer. Merci Emmanuel Macron. Éric Ciotti, une réaction.
Écoutez, je suis, bravo, moi aussi je vous félicite, mais je suis consterné par ce que j'entends. Arrêtons les paroles, il est urgent d'agir et construire d'urgence 30 prisons de haute sécurité, je le dis.
Ça va suffire pour enfermer tous les délinquants ?
Mais ce ne sont pas les délinquants que je veux mettre en prison. Ce sont les honnêtes gens, les habitants de Marseille.
Ah oui.
Mais oui, méritent eux de vivre dans un endroit sécurisé. Hein. Au moins en prison, les habitants seront tranquilles, à l'abri des trafiquants. Et je le répète, du laxisme d'Emmanuel Macron.
Merci Monsieur Ciotti. Et tout de suite les titres de l'actualité avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Oui, bonjour Apolline. Mexicanisation après l'explosion de violence à Marseille liée au narcotrafic. Les autorités mexicaines annoncent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter dans leur pays une marseillisation de la délinquance. Du coup, de plus en plus d'habitants de Marseille font le choix de quitter la ville pour s'installer dans des endroits plus sûrs comme Bogota, le cartel de Medellín ou les favelas de Rio.
Merci Thibault. La COP30 se termine demain au Brésil. Le chef de l'ONU a qualifié la COP21 de Paris de 2015 d'échec, puisque les engagements pris durant cette COP n'ont pas été tenus. François Hollande est avec nous. Bonjour Monsieur le Président.
Bienvenue.
J'ai mal entendu. Ma COP, un échec. Non, mais pour qui se prend le chef de l'ONU qu'il commence déjà par balayer devant sa porte, monsieur l'ONU, hein? Excusez-moi, mais est-ce que moi je lui balance comme ça en pleine face toutes les guerres, les massacres, les famines qui ruinent notre monde? Ce n'est pas une grande réussite non plus, l'action de ce monsieur l'ONU.
On comprend que vous soyez vexé quand même, François Hollande. La COP 21 prévoyait de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici 2100. Bah, ça y est, on l'a déjà dépassé.
Mais je m'inscris en faux. Ce matin, quand vous êtes sorti chez vous, Madame de Malherbe, n'avez-vous pas senti que c'était un petit peu refroidi?
Oui, c'est.
Voilà, donc, c'est QFD. Donc, ma COP 21 est un succès. Ça a été, je pense, en toute impartialité, la plus grande COP de tous les temps. Parce que la COP 30. On sait très bien comment ça va se terminer. Ils vont dire qu'ils se revoient à la COP 31 pour décider à la COP 32 de proposer qu'à la COP 33, on prenne des résolutions à échéance de la COP 37. Voilà. C'est petit.
Oui.
C'est tout petit. Alors que moi, avec ma COP 21, j'ai vu grand
bien sûr,
à l'époque.
Ça n'avait rien à voir.
Oui, j'ai su faire rêver le monde et susciter, je crois, de l'espoir.
Merci, monsieur Hollande. Le gouvernement veut regrouper toutes les aides sociales en une allocation unique pour économiser des frais de gestion. Tiens, François Ruffin est avec nous. Vous en pensez quoi, François Ruffin?
Apolline de Malherbe.
Oh oui, c'est bon.
Fusionner comme ça, qu'est-ce que j'ai pas entendu?
Parce que j'ai pas réussi à résister à l'envie de vous répondre. Ouais. Voilà.
Alors, écoutez, revenons au sujet.
Oui, tout à fait.
Fusionner comme ça les allocations, ça va créer du chômage. Pourquoi? Je vous explique. Avant, avec un seul chômeur, on arrivait à faire vivre 6 fonctionnaires. Hein. Jean-Michel, celui de la CAF. Hein. Hervé. Celui de la mairie, Gisèle, qui remplace Bernard quand il est en arrêt maladie. Je pense aussi à Jean-François qui discute toujours avec Jean-Michel de la CAF, sans oublier bien sûr Jocelyne qui dit toujours « Ah, bel dossier de Monsieur Martin, je sais pas où c'en est, demande plutôt à Jean-Pierre ». Et Jean-Pierre indispensable qui dit toujours « Je crois que c'est Sébastien qui s'en occupe hein ». Ouais, non mais on veut détruire tout ça. Vous rendez compte qu'on est en train de détruire tout cet écosystème? On a besoin, je le dis, de tout le monde pour traiter en urgence les dossiers des gens qui souffrent. Alors je le dis et je le redis, ça suffit.
Merci monsieur François Ruffin. Enfin, Jean Lassalle poursuit son one-man show sur les scènes de France. Bonjour monsieur Lassalle, comment ça se passe cette tournée?
Ne soyons pas modestes.
Non, c'est
un triomphe. Certains, vous savez, Mme Malherbe, M. Zexer, M. Domingue, M. Guége, M. Danchin, certains me comparent déjà à Jean Roucas.
Ah oui.
À Guy Montagnier. Bah, au grand Fernand Reynaud. Les blagues n'ont plus de secret pour moi. Je vous sens gourmand. En cette matinée, il faut le dire, une matinée un peu plombée, j'ai envie de dérider les sourires de chacun d'entre vous. Allez-y. En humaniste que je suis. Et je vous fais un petit échantillon. Pourquoi Jésus ne pouvait pas jouer au football le jour de Pâques?
Oh bah je ne sais pas, monsieur Lassalle.
Parce qu'il était suspendu.
Oh,
voyez, ça, c'est de la blague imparable. De la blague imparable. Et le vin plein air, sans OGM, une blague bio, nourrie au grain.
Ah, oui.
En un mot, c'est du label rouge.
Ah voilà.
J'en ai une autre. Tiens, je vous en fais une en impro. Tiens, une en impro comme ça, pour vous personnaliser. Pourquoi l'homme qui est à côté de moi, qui s'appelle monsieur Marshall, hein? Vous savez pas pourquoi? Parce que comme dans tous les bons westerns, il arrive toujours en dernier quand tout est fini, que tout le monde est mort de rire. Voilà, vous l'avez compris, je suis le Coluche des Bois, le Thierry le Luron des Clairières, le Florence Forestier.
C'est très bon.
Merci.
C'est très bon.
Merci
beaucoup Nicolas Canteloup, chaque matin avec nous à 8h50. Et comme vous l'aurez compris, Alain Marchal est rentré en catimini à la dernière minute dans ce studio. Quel est le programme?
Eh bien, les GG de 9h à midi avec Joël Dagosséry, Mourad Boudjelal, Emmanuel De Villiers, la déclaration du chef d'état-major des armées, peut-être une attaque ou une confrontation avec la Russie d'ici 3 ou 4 ans, et la France qui doit peut-être être prête à perdre des enfants. Venez réagir au 32-16.